on va commencer tout de suite cette émission pour la dignité avec Régis Coulanges et une invitée. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Un sommaire riche encore pour cette émission, Régis.
Oui, alors cette émission que je vous propose aujourd'hui porte un regard sur la prison, l'état de la prison en France, à partir d'un témoignage de Huguette Folly. Bonjour Huguette.
Bonjour.
Voilà, nous allons parler avec vous de votre engagement au sein de la maison d'arrêt de Digne-les-Bains. Et puis nous parlerons un petit peu de la situation des prisons en France. Ensuite, nous aborderons une guerre qui est souvent oubliée, la guerre du Yémen, et l'implication de la France par ses ventes d'armes. Un petit mot sur la Mauritanie, et puis on fera un point sur l'action d'Amnesty International à Digne, et notamment le festival au cinéma pour les droits humains, qui se déroule au Ciné-Étoile, et en même temps au lycée Pierre-Gilles de Gênes. Et puis on vous parlera de la dernière séance de ce festival, jeudi 29 mars, où nous allons passer le film Les Sentinelles, sur le drame de l'amiante et des pesticides. Voilà pour ce sommaire. Bonjour Huguette Folly, membre du Secours catholique et intervenante à la prison de Digne-les-Bains. C'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour que vous nous parliez un petit peu de vous et de vos engagements au sein du Secours catholique.
Voilà, merci pour votre invitation. Alors, je suis en effet Huguette Folly. Je vous parlerai de mon expérience au Secours catholique où j'ai effectué 11 années comme bénévole dans l'équipe de Digne, donc pour trois mandats de responsable de l'équipe de Digne au pôle social, où, conformément à l'ADN, j'allais dire, du Secours catholique, l'objectif essentiel était celui de la rencontre des personnes démunies en situation de précarité. Et donc, au cours de mes trois mandats, nous avons rencontré des personnes en situation donc de précarité. Nous avons travaillé, amélioré aussi notre écoute auprès de ces personnes en cherchant à creuser le sens du mot « aide ». Et ce que nous avons retenu, ce que j'ai retenu, moi, surtout de cet engagement, c'est que l'aide, c'est faire avec la personne et c'est respecter la personne dans sa dignité, puisque le propos de ce jour est le propos de la dignité. Voilà. Après cette période de responsabilité dans l'équipe de Digne, j'ai été envoyée sur une autre mission du Secours catholique en direction de la maison d'arrêt de Digne. Donc la maison d'arrêt de Digne, c'était pour moi une terre inconnue. J'ai découvert une réalité qui était celle de la privation de liberté, de l'organisation d'un univers carcéral. Alors la maison d'arrêt de Digne, c'est environ une quarantaine de détenus, des gens qui sont donc là. Ce sont donc des personnes qui sont là pour une période souvent assez courte, puisqu'il s'agit d'une maison d'arrêt, donc les longues peines ne sont pas là. Donc la mission du Secours catholique dans cet objectif de la maison d'arrêt, c'est d'abord de rencontrer les personnes. Nous rencontrons donc les détenus quand ils le souhaitent. Nous rencontrons les surveillants. Nous rencontrons les personnels de l'univers carcéral. Et c'est toute la richesse aussi de cette découverte qui est les personnes derrière les murs, bien évidemment, qui attendent de l'extérieur de vérifier qu'ils sont quand même encore importants. Et c'est ce que j'ai découvert, moi, essentiellement. Alors, nous intervenons, peut-être vous dire un petit peu en quoi consiste notre action dans la maison d'arrêt de Digne. Nous intervenons une fois par mois dans des commissions qui sont organisées par l'administration pénitentiaire et dans lesquelles je voudrais dire qu'à Digne, je pense que nous avons la chance de pouvoir être associés pleinement au fonctionnement de ces commissions, ce qui n'est pas le cas dans toutes les prisons quand on fait la comparaison avec ce que le Secours catholique fait dans d'autres lieux. Donc la direction de la maison d'arrêt de Digne nous associe en fait parfaitement aux différents lieux d'accompagnement des détenus. Il y a une commission qui est une commission dite commission d'indigence, qui vise à apporter des aides financières aux détenus en situation vraiment économique très précaire. Bon, ça, c'est un accord qui a été passé aussi. L'administration pénitentiaire participe pour une partie et le Secours catholique donne une somme à ces personnes en situation de difficulté financière. Il y a ensuite une commission très importante qui voit se réunir tous les mois un certain nombre de partenaires extérieurs. Il y a bien sûr des représentants de l'administration pénitentiaire. Il y a les gens du service de probation et d'insertion qui ont mission à préparer la sortie des personnes. Il y a des personnels de la santé. Il y a des personnels qui travaillent sur toutes les addictions liées malheureusement aux personnes qui sont souvent en prison. Il y a des personnes qui visent aussi à travailler sur la formation, formation à la fois initiale pour les niveaux scolaires et puis aussi préparation au travail pour la sortie. Et donc le Secours catholique est associé à cette commission. Bien évidemment, nous sommes dans une position, comment dire, nous n'avons pas de décision à prendre, mais nous sommes là aussi pour apporter éventuellement un certain nombre de questionnements ou parfois notre expertise du Secours catholique qui connaît un petit peu les difficultés des personnes en précarité. Voilà, donc voilà un grand moment. Ensuite, nous, en direction de la prison toujours, nous fêtons la fête. Enfin, nous sommes associés à une association qui est une association à l'association. Alors, je vais vous dire parce qu'elle est compliquée. Association qui s'occupe de créer de l'animation, loisirs, social. Bon, je vous trompe.
C'est pas grave.
J'ai oublié cette association culturelle et sportive. Voilà, elle a un grand logo pour la désigner. Cette association, elle est composée donc d'un certain nombre de membres de la prison. Et elle a pour mission d'animer et de créer des temps de convivialité dans la maison d'arrêt. En particulier la fête de la musique, qui est un grand moment. Là, nous sortons du site d'action, qui a été un temps fort pendant 3 jours à la maison d'arrêt.
Je suis intervenue, j'ai interviewé quelques personnes.
Voilà. Et c'est vrai qu'on découvre voilà, tout à fait combien les détenus apprécient la présence des gens de l'extérieur. Et ça a été un temps fort. Il y a eu aussi, toujours avec cette association, l'organisation de séjours à la Fontaine de l'Ours, à Auzé, où les détenus autorisés, bien évidemment, ont pu participer à des temps de promenade avec les personnels du SPIP. Et ensuite, le soir, ont répercuté leur expérience de montagne et de marche en musique. Et je crois que nous écouterons peut-être tout à l'heure une partie de leur production. Voilà. Donc, le Secours catholique donne un petit coup de main pour organiser, lors des colis de Noël, les colis que nous apportons aux détenus et qui sont toujours très appréciés. Nous nous proposons, quand cela est utile, auprès de la direction de la prison, de rencontrer les personnes détenues qui le souhaitent, parce que notre statut de Secours catholique ne nous autorise pas à une rencontre directe avec les détenus, comme les aumôniers peuvent le faire, puisque seuls ont droit à l'accès à la cellule. Donc nous les rencontrons à la demande éventuellement de la direction ou d'un personnel. Il faut dire quand même que la maison d'arrêt de Digne, sur le plan des relations, est, je pense, un petit peu exceptionnelle et que les relations sont favorisées et sont facilitées dans tous les sens. Voilà. Donc, voilà. La convivialité est quand même un élément important et nous y travaillons beaucoup. Le Secours catholique insiste aussi, je crois, au niveau national pour essayer d'obtenir un statut justement un peu plus précis qui permettrait aux personnes qui rentrent au titre du Secours catholique de pouvoir rencontrer les personnes détenues de façon plus personnelle. Voilà. Il y a aussi un volet de l'action du Secours catholique, je crois que je peux évoquer avec vous, c'est tout le volet sur le plaidoyer. C'est-à-dire que le Secours catholique, sur le plan national, insiste sur un travail qui pourrait être celui de changer un petit peu le regard sur la prison et sur l'univers carcéral. Voilà. Alors évidemment, le Secours catholique est un service d'église, qui est une association d'utilité publique, mais il est sûr que nous aimerions que le regard porté sur l'univers carcéral soit un petit peu moins dur que celui que nous connaissons actuellement. Voilà.
Très bien. Okay. Le Secours catholique, c'est une grande organisation et Amnesty International, plusieurs fois, a travaillé avec cette association parce qu'elle aussi défend la dignité de chaque être humain. Donc on va maintenant écouter ce que nous a parlé Huguette, ce CD qui a été enregistré par des prisonniers lors de leur séjour à la Fontaine de l'Ours. Donc c'est un morceau avec leur texte et leur musique. On va l'écouter, il est un peu long, mais on l'écoute en entier, c'est tout à fait normal. Et puis, ils n'ont peut-être pas l'occasion de le mettre sur les ondes souvent. Donc, c'est un grand plaisir de l'écouter dans notre émission Pour la dignité. Ça s'appelle « À nous de l'apercevoir ». De la percevoir.
Je me souviens ce sandwich, dans cet endroit magnifique, sous ce ciel d'étoiles filantes, avec mon petit café. Cette chaleur qui vient du cœur, mais bon, on est différent, dans ce monde tellement étrange. On pourrait être tous ensemble, on rencontre des gens super, mais d'autres nous désespèrent, dans ce monde tellement primaire.
Je suis allé randonner pour rassembler mes pensées. Devant cette cascade gelée, j'ai juste envie d'y rester pour pouvoir en profiter de cette montagne toute glacée. Je voudrais recommencer dans ce vent gai et glacé. Où j'ai vraiment respiré
la beauté de partout. À nous de la percevoir. La beauté de partout. À nous de la percevoir.
Espace grandiose. la liberté de faire le vide, l'espace, l'espace grandiose.
J'ai la lueur dans les yeux. Arrivé sur ce sommet, j'ai la magie qui opère. J'ai la magie qui opère. Face au paysage grandiose, je resterai là des heures. Regardez les autres cimes, la beauté de partout. À nous de la percevoir.
La beauté de partout. À nous de la percevoir.
Voilà, voilà cette œuvre de quelques prisonniers de la maison d'arrêt de Digne, réalisée à la Fontaine de l'Ours, avec les animateurs de la Fontaine. Voilà, alors pour prolonger le...
C'est de la bombe.
Qu'est-ce que tu m'as mis là?
C'est de la bombe, c'était la suite. Pardon, c'était la suite de la chanson. Enfin,
d'accord, la deuxième chanson.
Pardon. Ah oui.
Donc, pour prolonger l'intervention du GET, je vais vous parler un petit peu d'un dossier que Amnesty International France a réalisé pour la chronique d'Amnesty International. C'est un journal qui paraît une fois par mois et que vous pouvez trouver à la médiathèque, puisque le groupe de Digne a abonné la médiathèque depuis plusieurs années. Donc, c'est le numéro de février 2017 qui est consacré justement à la prison. France, les prisons de la honte. Voilà, l'impasse de la détention. Et dans ce dossier très complet, nous notons, nous avons notamment interviewé un anthropologue, Didier Fassin, dans son dernier livre qui s'appelle Punir, et qui nous dit la France traverse la période la plus répressive de son histoire récente en temps de paix. Si l'on fait exception des années qui ont immédiatement suivi la Seconde Guerre mondiale, jamais autant d'hommes et de femmes n'y ont été emprisonnés. Une évolution qui n'est pas due à l'augmentation des délits. On criminalise des faits qui ne l'étaient pas. De nouvelles infractions sont créées, tandis que certaines relevant de simples contraventions deviennent passibles de prison. Le cas de la délinquance routière est éloquent, donnant lieu chaque année à 3000 peines d'emprisonnement. La vision ultra-sécuritaire et les préjugés selon lesquels les prisonniers ont ce qu'ils méritent n'ont jamais prémuni la société contre les délits. Au contraire, la France fait figure de mauvais élève en Europe. La récidive atteint près de 60% de la densité carcérale, une moyenne nationale de 117%, les maisons d'arrêt étant les plus touchées avec un taux d'occupation de 140% jusqu'à 180%. En avril 2016, 1645 détenus dormaient sur des matelas par terre. Cette situation est inadmissible. Elle s'apparente à un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les droits humains sont bafoués à cause de la surpopulation. Du coup, notre santé et notre sécurité sont mises en péril, dénonce un prévenu en maison d'arrêt. On est comme des poulets en batterie d'élevage. Au final, on t'incite à être pire, conclut un autre. Voilà, donc la situation n'est pas très brillante et le directeur de l'Observatoire international des prisons, François Besse, disait « La situation ne changera que s'il y a une décision politique de faire purger les peines autrement. Il faut mettre en place en urgence tous les aménagements de peines et glisser les budgets sur les structures d'accueil alternatives à la prison, le travail d'intérêt général, le placement à l'extérieur, car 80% des détenus ont des peines de moins de 2 ans et on désengorgerait ainsi les maisons d'arrêt. » Une solution qui libérerait les esprits prisonniers d'un système dépassé. Donc voilà, c'est tout un travail sur la prison, toute une optique, une vision à revoir. Hein, et comme disait Albert Camus, une société se juge à l'état des prisons. La France a du souci à se faire dans ce cas-là. Alors bien sûr, dans ce dossier, on a aussi des bonnes pratiques, comme on a vu à la prison de Digne, hein, avec... Ces interventions extérieures de personnes qui viennent écouter ou qui viennent proposer de la chanson, de l'écriture, de la musique. Voilà, alors dans le dossier, on cite aussi deux bonnes pratiques. Par exemple, à Clairvaux, des textes des détenus sont mis en musique et sont présentés à un festival. Et puis, à la prison de Melun, il y a plusieurs détenus qui ont participé à la campagne 10 jours pour signer qu'Amnesty International organise toujours autour du 10 décembre. En fait, c'est venu d'un prisonnier qui a adhéré à Amnesty International. Du coup, la section française a donné les coordonnées du groupe local de Melun à ce prisonnier. Ainsi, le groupe a pu contacter la prison, puis avec l'accord... des autorités, ils ont pu organiser le groupe et puis ce prisonnier les 10 jours pour signer. C'est une expérience qui s'est très bien passée. Hein. Donc, faire signer des pétitions aux autres détenus, au personnel, pour des gens injustement torturés, emprisonnés. Voilà. Et la responsable du groupe, d'ailleurs, d'Amnesty, disait « Ce qui est bien à cet endroit, c'est que nous, quand on fait signer les pétitions dans la rue, les gens sont toujours pressés, ils n'ont pas le temps. Tandis que là, les gens ont le temps de lire les cas, de s'intéresser à ces personnes et de signer tranquillement ces pétitions ou ces envois de cartes de soutien. » Voilà, donc, un exemple aussi de bonne pratique. Hein. Qui n'exclut pas, parce que bon, l'objectif quand même, c'est de réinsérer au maximum et pas de faire l'inverse. Voilà, alors nous allons maintenant mettre un petit peu de musique avec Michel Berger, chanter pour ceux qui sont loin de chez eux.
Chose qui fait mal, qui fait mal. Qui a volé leur histoire? Qui a volé leur mémoire? Qui a piétiné leur vie comme on marche sur un miroir? Celui-là voudra des bombes, celui-là comptera les jours en alignant des bâtons comme les barreaux d'une prison. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal, ça fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal.
Voilà, alors maintenant, je vais vous parler d'une guerre dont on parle peu, la guerre au Yémen, et d'une certaine responsabilité de la France par rapport aux ventes d'armes. En effet, la France continue de délivrer des licences d'exportation à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, alors que ces derniers participent à l'offensive meurtrière en cours au Yémen, et qu'il existe un risque que soient commis des violations graves du droit international humanitaire. Amnesty et d'autres associations ont beaucoup travaillé pour qu'il y ait un traité sur le commerce des armes afin d'interdire à un pays de vendre des armes si ce pays va s'en servir contre sa population civile et commettre des crimes de guerre. Alors, ce coup-ci, Amnesty International avec l'ONG l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, ont mandaté un cabinet d'avocats, le cabinet Ancile Avocat, afin de rendre un avis juridique relatif au transfert d'armes de la France dans le cadre du conflit au Yémen, à compter d'avril 2015 et jusqu'à la période actuelle. Le cabinet d'avocats a travaillé et a sorti un rapport que vous pouvez voir sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Un rapport complet de 90 pages et je vais vous lire une partie de leur conclusion. Si la responsabilité de l'actuelle catastrophe humanitaire consécutive au conflit au Yémen incombe avant tout aux forces gouvernementales et aux pays de la coalition, ainsi qu'au mouvement Houthi et à ses alliés, les États parties prenantes au commerce des armes endossent également une responsabilité morale, politique et légale pour les conséquences dramatiques liées à l'usage qui en est fait. Or, les obligations internationales qui pèsent sur les États exportateurs d'armes et équipements en termes de droits de l'homme et de droit international humanitaire se trouvent ainsi bafouées par des considérations géopolitiques, mais également stratégiques, en termes de prise en compte de l'intérêt économique d'opérateurs privés. En France, cet équilibre délicat se traduit en premier lieu par une opacité certaine des décisions prises par les autorités administratives en charge d'approuver les licences d'exportation, en particulier dans la motivation des dites décisions. Ce manque de transparence pose la question du déficit démocratique de ce dispositif aux conséquences potentiellement désastreuses. Si les violations identifiées dans cette étude sont confirmées du point de vue des droits humains, au-delà d'une frilosité politique évidente, il ressort de la présente étude un risque juridiquement élevé que les transferts d'armes soient illicites au regard des engagements internationaux de la France, qu'il s'agisse des dispositions du traité sur le commerce des armes comme de la position commune. Voilà, il en ressort une responsabilité assez importante de la France, hein, qui a vendu des véhicules blindés de combat, des armes françaises fabriquées par des industriels comme Nexter, fabricant du char Leclerc, ou Dassault, fabricant du Mirage 2000. Voilà, et ainsi que non seulement du matériel, mais aussi des munitions. Et puis aussi la maintenance, notamment pour les Mirages 2000, alors que ces derniers sont engagés dans des dispositifs militaires de la coalition. Et on a vu qu'au Yémen, il y a eu des bombardements d'hôpitaux, d'écoles, de quartiers de ville, et ce sont toujours les civils qui sont les premières victimes. Voilà. Donc, si vous vous intéressez à ce sujet, allez sur le site d'amnesty.fr et puis vous verrez ce dossier sur les ventes d'armes de la France dans le conflit au Yémen. Voilà. Et si vous allez également sur le site, vous verrez tout un reportage sur la Mauritanie. On en a parlé plusieurs fois dans cette émission. La Mauritanie, pays dont on parle peu. Les défenseurs des droits humains qui dénoncent la pratique de l'esclavage et des discriminations sont arrêtés et torturés. C'est important d'aller voir, et puis vous aurez une possibilité de signer une pétition pour demander la libération de deux personnes qui font partie de l'association pour éradiquer l'esclavage, contre l'esclavage. Ils s'appellent Moussa et Abdella. Ils ont eu le courage de dénoncer haut et fort l'esclavage en Mauritanie. Ils avaient été arrêtés avec 13 autres personnes. Et finalement, ils ont, sous la pression de l'opinion publique internationale et d'Amnesty International, 13 ont été libérés. Et les deux qui restent, ils les ont en fait gardés en prison, on pense, parce que c'est les deux qui ont été le plus torturés. Et donc, ils attendent que les séquelles des tortures ne se voient plus pour peut-être enfin les libérer. Voilà. Donc, il y a une demande, une pétition que vous pouvez signer pour demander leur libération immédiate. Et puis, à l'approche des élections qui auront lieu en 2019, il faut absolument que les personnes puissent manifester leur opposition, manifester leurs opinions. Et c'est pas ce qui se passe. Il y a toute une frange de la population en Mauritanie, notamment les Noirs, la population noire, les Aratines, les Négro-Mauritaniens, qui ont énormément de mal pour trouver du travail, qui ne sont pas toujours enregistrés. Donc, s'ils ne sont pas enregistrés, ils ne peuvent pas voter. Et ils sont discriminés sans arrêt. Et puis, un certain nombre, on estime à jusqu'à 43 000 personnes sont réduites en esclavage. Mais ce n'est pas l'esclavage moderne, hein, c'est l'esclavage du Moyen-Âge. Hein, c'est-à-dire qu'ils travaillent chez des personnes sans être payés. Et le maître a tous les droits sur ses esclaves. Il peut les vendre, les donner, les échanger, les libérer, abuser des femmes, voilà, c'est vraiment important de manifester votre solidarité avec les défenseurs des droits humains de ce pays et ceux qui ont eu le courage de dénoncer cet état de fait. Voilà, donc je vous invite à aller sur amnesty.fr et nous allons maintenant écouter Julos Bocarn, Les loups ont des têtes de moutons.
Depuis que Lumumba fut tué pour avoir dit sa vérité, depuis que là-haut et là-haut, parce qu'il avait parlé tout haut, depuis qu'on étouffa une fille dans un avion pour pas qu'elle crie, les loups ont des têtes de mouton, derrière les roses il y a des chardons. C'est celui qui est tout en haut qui tient le manche de la foule. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot trop on les cartes. Les petits regardants n'ont rien à dire. C'est le jeu des grands, ça c'est bien pire. Celui qui se tient au perché, il a le droit de vous supprimer. De beaux enfants sautent sur des mines, mais on n'arrête pas la machine. D'autres sont drogués pour tuer, et la cocaïne les défait. Nous vivons en pleine barbarie, les soldats violent toujours les filles. C'est celui qui est tout en haut qui tient le manche de la foule. Si ce que tu dis cause souci, tout sera vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot de trop les cartes, les petits regardants n'ont rien à dire. Si le jeu des grands, ça c'est bien pire. Chez nous, un jeune homme fut visé, tiré comme un lièvre en un pré. Pour le diamant qui s'est gagné a été totalement détruit. Il y a des fabriques et des boutiques de fusillades pas d'ici. La mort fait vivre nos ouvriers, l'emploi est sauf, on laisse tomber. C'est celui qui est tout en haut qui tient le manche de la foule. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot de trop, on le carte. Les petits regardants n'ont rien à dire. Si le jeu des grands, ça c'est bien pire. Des femmes sont tuées à chaque jour par jalousie, par leurs amours. Il y a des petites filles qui sont forcées et toute leur vie en est gâchée. Il y en a d'autres à qui on enlève le clitoris, leur vie s'achève. À 3 ans on tourne la page, leur vivant c'est déjà veuvage. Tout le monde veut être tout en haut pour tenir le manche de la foule. Une fois qu'il tient, il veut faucher et le cauchemar de recommencer. Les petits regardants devenus grands veulent jouer au grand jeu des grands. Il n'y en a pas un qui est épargné, tout le monde veut être le premier. Nous sommes 6 milliards tout en bas, maraboutés au nom de quoi? Au nom du pèse, au nom du fisc et du sacro-saint bénéfice. Mineurs et majeurs détournés par des bonimenteurs roués qui veulent que nous marchions au pas et dans les souliers de leur choix. C'est celui qui est tout en bas qui est bien plus fort qu'il ne croit. Si nous le voulons, toi et moi, le cauchemar s'arrêtera. 6 milliards de petits regardants peuvent devenir acteurs puissants. 6 milliards de gens conscients ensemble changent le cours du temps.
Voilà, maintenant on va faire un petit peu sur le point sur le festival au cinéma des droits humains qui se déroule tous les jeudis du mois de mars au Cine-Étoile, mais également au lycée Pierre-Gilles de Gênes où nous avons fait de nombreuses interventions autour d'un film qui s'appelle Souris et qui, donc c'est un court-métrage qui raconte l'histoire d'un réfugié syrien qui est abandonné par son passeur dans la campagne au pied du Mont Ventoux, dans les vignes. Et ce Syrien fait la rencontre d'un viticulteur. Et ce viticulteur existe vraiment, puisque c'est l'oncle du réalisateur du film. Et ce viticulteur parle arabe. Alors, il est très surpris. Et d'ailleurs, à un moment, il pose la question, mais tous les Français parlent arabe. Non, ce viticulteur parle arabe parce qu'il a fait du vin pendant 25 ans au Liban. Et en fait, ce viticulteur a eu de suite envie de faire ce film qui raconte donc l'accueil de ce migrant par ce viticulteur. Parce qu'en fait, il raconte qu'il a tellement été bien accueilli par les Libanais chrétiens et musulmans, qui étaient ses ouvriers et qui ont fait du vin avec lui, qu'il avait un peu une dette envers eux. D'autant plus qu'il a fait du vin pendant la guerre qu'il y avait au Liban contre Israël. Et à cette époque-là, il faisait du vin dans la plaine de la Beka. C'est le fief du Hezbollah. Et le Hezbollah, pour avoir de l'argent, kidnappait notamment des Européens pour les revendre, pour demander des rançons. Et il était premier sur la liste du Hezbollah. Et en fait, il a passé tout le temps de la guerre à être protégé par ses ouvriers chrétiens et ses ouvriers musulmans. Il dormait chaque nuit chez quelqu'un différent. Et ainsi, il n'a jamais été arrêté, enlevé. Voilà, donc c'était une belle histoire qui répondait à l'histoire présente. Donc ce Syrien, ben, il est ingénieur. Hein. Souvent, les réfugiés qui arrivent jusqu'à nous sont qualifiés. C'est souvent des gens qui ont des revenus pour pouvoir justement payer les passeurs. Hein. Les plus pauvres qui fuient les atrocités se réfugient dans les pays les plus proches, hein, comme au Liban justement ou en Turquie. Voilà, et donc... c'était intéressant de voir ce film et ça, les jeunes discutent beaucoup sur cet accueil. Finalement, c'est le viticulteur qui va accueillir le migrant. Et ce migrant, donc on a eu des nouvelles, il a pu faire venir sa femme et son fils et puis partir aux États-Unis et obtenir l'asile là-bas. Voilà, donc c'était une histoire qui se terminait bien. Donc pour vous dire que le festival se fait également... au lycée. Nous allons bientôt passer dans cette semaine un film sur le droit à l'eau qui est fait par un réalisateur qui a pris le parti de faire jouer des enfants défavorisés dans tous les continents. Et donc là, ce court-métrage, c'est justement des enfants dans la capitale de Colombie qui vivent dans les favelas. Et puis les gens sont malades parce qu'ils ont une eau qui est polluée. Donc ce sont les enfants qui vont mener l'enquête. Ils vont aller en ville, voir un petit peu si l'eau en bas est polluée, si dans le quartier riche elle est polluée. Et puis ils s'aperçoivent que suivant les quartiers, il y a de l'eau propre ou de l'eau polluée. Donc ils vont remonter dans la montagne et voir un peu d'où vient le problème. Voilà. Je vais vous parler. Oui ?
Je voulais savoir, donc ce n'est pas les mêmes films qui sont projetés au lycée par rapport à ce qui est projeté au Ciné-Étoile.
Alors, au Ciné-Étoile, nous avons fait à la troisième séance une projection de courts-métrages. Voilà. On avait choisi quatre courts-métrages et ces courts-métrages, on les a proposés dans les lycées et les collèges. Et en fait, y a un professeur qui a beaucoup aimé le film « Souris ». On passe pratiquement tous ses élèves par demi-groupes à partir de ce film sur l'accueil des migrants. Et puis, cette semaine, il y a un professeur qui veut travailler sur le droit à l'eau. Hein. C'est un nouveau droit de l'homme. Hein, il y a le droit à la vie, mais en fait, c'est lié aussi et à la santé. Et ce droit à la santé, c'est lié aussi au droit à une eau potable. Donc, il y a déjà un premier protocole qui a été signé aux Nations Unies sur l'accès à l'eau potable pour tous. Et il y a un deuxième protocole qui est en préparation pour que l'accès à une quantité minimale par personne d'eau potable soit gratuite pour les gens pauvres. Parce que, voilà, c'est l'évolution du droit. Chaque personne doit avoir la quantité d'eau potable nécessaire à la vie. Voilà, c'est... quels que soient les revenus de ces personnes. Donc, c'est le droit qui se construit petit à petit en fonction de l'évolution de la planète. Voilà. Alors, la dernière séance qu'on a faite, c'était le film Kobe, l'histoire d'un transgenre qui est assez extraordinaire. Et le plus simple, peut-être, c'est de repasser l'interview du réalisateur. Et ensuite, je vous parlerai du prochain film jeudi prochain.
Écoute, ça vaut le coup.
Christian Sonderegger, réalisateur pour ce premier film Kobe, qui est un film sur le parcours d'un transgenre. Donc ce film qui a remporté un bon succès hier soir, mais qui a aussi été primé hier soir aussi.
Ouais, c'est un prix de la critique au Festival international du film de Valenciennes. Il a été primé là-bas et puis il se balade pas mal dans des festivals dans le monde entier. Il a démarré sa carrière l'année dernière dans la sélection Acide au Festival de Cannes, donc de 2017. Et maintenant, il se promène un peu dans le monde entier. Il va sortir en France là, ce 28 mars et il sort aussi en mai aux USA et en Australie.
Et raconte donc le parcours de Kobe. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour réaliser ce premier long métrage ?
Alors, c'est extrêmement simple puisque Kobe est mon demi-frère. Donc, moi, je n'ai jamais vécu avec lui puisqu'on n'a pas été élevés ensemble. Nous avons la même mère. Et donc, quand il a décidé de faire cette transition, il est venu me voir en fait pour me demander si j'avais envie de faire un film de ça et de l'accompagner à travers la vidéo. Et je n'ai pas du tout accepté, j'ai même dit non, j'ai dit que je ne voyais pas du tout comment j'allais faire un film. Enfin, c'était pour moi du reality show qui allait se passer pour moi, et que ce n'était pas du tout mon genre. Il fallait que je trouve une thématique autre que d'accompagner quelqu'un et de regarder quelqu'un qui a un problème et de voir avec lui le chemin de croix qu'il allait traverser, c'est l'image que j'en avais dans tous les cas, pour arriver à le résoudre. Et donc quand j'ai senti et ressenti que c'était tout le contraire qui arrivait, que c'était quelqu'un qui allait vers la lumière, qu'il arrivait vers une normalité, là, j'ai compris que j'avais un film qu'il fallait que je prenne à l'envers. Et donc, j'ai commencé par montrer, en fait, pas quelqu'un qui a un problème, mais quelqu'un qui n'en a pas. Et comment il a fait pour ne pas en avoir, finalement, quoi. Et donc, c'est de cette manière-là que le film a démarré. Donc, 3 ou 4 ans après qu'il ait commencé sa transition, je suis parti filmer. Et puis après, j'ai eu la chance, c'est qu'il avait lui-même fait un journal vidéo, qu'il se filmait donc depuis le début de sa transition et qu'il postait sur le net, sur YouTube, des petits films, voilà, vidéo, où il montrait et s'observait en train de changer de genre, de passer de la jeune fille au garçon.
Alors justement, dans votre film, on ne voit pas du tout ce côté de voyeurisme auquel on aurait pu s'attendre. Il est tout en amour, tout en douceur. Et comme il le dit lui-même, il a eu la chance de tomber dans une bonne famille, une famille pleine d'amour et d'intelligence.
Alors voilà, la famille pleine d'amour et d'intelligence, c'est vrai qu'il n'est pas né n'importe où. Alors en plus, c'est assez étonnant parce que ce qui m'amusait dans ce film, c'est que ça se passe dans un petit village perdu de 2000 habitants dans l'Ohio, dans le Middle West. Donc on n'attend pas du tout une réaction pareille dans un endroit pareil, dans cette famille-là. Je pense que cette famille, elle est devenue aussi intelligente parce qu'elle a accepté de le faire, de l'accompagner. C'est-à-dire que je pense que le résultat, ce qu'on ressent aujourd'hui dans le film, puisque je filme au moment où la transition est faite, et où cette famille s'est grandie en l'accompagnant. Donc je pense qu'elle a peut-être pas... Alors bien sûr, c'est pas une famille qui l'a totalement rejetée au départ, mais c'est une famille qui a eu beaucoup de difficultés au départ quand même d'accepter. Il y avait beaucoup de jugements de valeur et de préjugés sur cette idée de transition. Mais le fait de l'accompagner, parce que lui, il a eu le courage aussi de dire « ça va se passer ici, maintenant et devant vous, et vous allez m'accompagner », a fait que cette famille a grandi et s'est grandie à travers ça. Donc effectivement, on a l'impression d'une famille idéale, mais je pense qu'elle est un peu devenue aussi, par ce travail qu'elle a fait aussi, puisqu'elle a aussi fait une transition. En fait, la personne qui fait la transition physique et intérieure, dans l'occurrence de fille vers garçon, eh ben, la famille aussi le fait, en fait, quelque part, en l'accompagnant.
Alors ça se fait pas sans mal, et pourtant on ne voit pas de souffrance dans votre film. Pourtant il y a quand même certainement des souffrances physiques.
Alors la souffrance, bien entendu, hein, quand vous faites opérer de l'appendicite, ben c'est pas simple. Quand vous faites une hystérectomie ou une mastectomie, inévitablement, ben vous avez des réactions des difficultés après pour vous remettre d'une opération, quelle que soit l'opération chirurgicale. Donc ça c'est une réalité. Mais il me semblait qu'on mettait trop souvent l'accent là-dessus. Donc je dis pas que ça n'a pas existé. Je pense qu'on le sous-entend dans le film et on le comprend, mais on ne le montre pas. Enfin mon idée c'était de changer le regard. Regard des gens sur cette histoire et sur cette problématique qu'est la transition, encore pour une grande partie de la population qui n'est pas au courant. Et donc je pensais qu'il fallait diriger ce regard vers la partie positive et intéressante et lumineuse de cette histoire. Donc j'ai fait le choix réellement de mettre en off, ou du moins de ne pas filmer et de ne pas pointer obligatoirement tous les moments difficiles. Après, la testostérone, bah voilà, c'est 200 mg toutes les 2 semaines à vie. Difficile aujourd'hui de savoir les conséquences sur la médicale là-dessus pour l'instant. Il y a des gens qui le font déjà depuis longtemps, parce qu'il y a des gens qui ont fait ça dès les années 50. Il ne semble pas qu'il y ait des choses particulières ou qu'il y aurait une différence ou une réduction de la durée de vie pour les gens qui prennent de la testostérone pour l'instant. Mais enfin bon, c'est encore difficile de juger, de quantifier ça.
Il assume complètement le fait d'être transgenre. Il le dit lui-même à son entourage. Il est toujours dans ce petit village ?
Voilà, il vit toujours dans ce petit village. Il est toujours au même endroit, au même travail. Donc les personnes qui l'ont vu grandir, c'est un tout petit village, ont vu grandir une petite fille et puis maintenant voient un garçon. Je rappelle que c'est un village qui a voté à, je crois, 90% Trump. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on peut voter Trump et de l'autre côté, on peut quand même accepter un des siens et l'altérité comme jamais on aurait pu imaginer dans un lieu pareil. Donc lui, il est toujours au même endroit. Il se définit vraiment en tant que transman, il dit en anglais, donc homme trans, puisque aujourd'hui il s'est arrêté à l'hystérectomie, il n'a pas fait de phalloplastie. Donc physiquement, de l'extérieur, il passe pour un homme, mais dans la réalité, il a encore un sexe de femme.
Quelles sont les lois en France ? Est-ce que c'est plus facile ?
En France, eh bien, c'est pris en charge, bien sûr, par la Sécurité sociale, alors qu'aux USA, la chose est simple, vous avez des dollars. Et avec des dollars, ben, vous faites un peu ce que vous voulez. Bien sûr, les lois aux USA sont variables en fonction des États dans lesquels vous êtes, mais finalement, dans l'Ohio, ça va relativement vite et relativement simplement par rapport au système français, qui est encore très lent. Donc je pense que le plus dur aujourd'hui encore pour les gens qui veulent faire une transition en France, quelle que soit de femme vers homme ou d'homme vers femme, c'est clairement qu'il y a une lourdeur administrative et beaucoup d'exigences qui viennent encore de la Sécurité sociale. Mais ça s'est allégé dans les dernières années. Aujourd'hui, c'est la discrétion du juge de décider en fonction du dossier qu'on dépose si il accepte le nouveau prénom, le nouveau genre. Mais vous n'êtes plus obligé d'aller jusqu'au bout de la démarche, donc des différentes opérations pour avoir ce genre. Donc oui, c'est beaucoup plus long en France.
Hier soir, donc, on a pu voir lors de la projection, au moment du débat, des rencontres avec le public, une femme qui a osé, c'était la première fois qu'elle osait parler de son cas, d'un fils donc, qui s'est fait opérer aussi récemment. Ça vous émeut que ça permette de libérer la parole ?
C'est capital pour moi. Là, le film prend tout son sens. Si vous voulez, je suis parti un peu comme ça pour faire une petite histoire intime. Et en la filmant, moi-même, mon regard a été changé. Ensuite, j'ai fait tous les efforts possibles avec mes techniciens pour que ce film retranscrive ce changement de regard et puisse donc provoquer la même chose sur d'autres gens. Donc de voir hier cette femme qui a osé en parler, qui était émue et qui en a parlé assez facilement, c'était très très beau à voir et je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut juste décaler un tout petit peu ce regard et comprendre qu'il s'agit juste d'un simple changement d'état, que ce n'est pas quelque chose de contre-nature, mais que ça fait partie, que c'est intégré dans cette nature, que c'est un changement d'état. La personne est toujours là et c'est toujours la même personne derrière.
Donc on souhaite une longue vie à ce film, que le maximum de personnes le voient. Il va être projeté dès le mercredi 28 mars dans les salles de cinéma Arrêt Essai. Est-ce que vous avez un projet à venir après ce sujet délicat ?
Oui, bien sûr, j'avais déjà des projets avant, et donc voilà, je les reprends et je continue. En fait, je suis beaucoup plus spécialisé dans la fiction que le documentaire, donc voilà, j'ai un autre projet qui va se passer au Canada, un long métrage qui s'appellera L'Abandon.
Voilà, donc c'était une soirée assez exceptionnelle qu'on a vécue jeudi dernier, et avec un débat aussi très très riche et cette intervention émouvante de cette maman. Qui pour la première fois, en effet, parlait de son enfant et de la transformation de son enfant. Voilà, alors jeudi prochain, donc jeudi 29 mars, nous vous proposons une dernière séance de notre festival à partir du film Les Sentinelles. C'est un film de Pierre Pezera. Pierre Pezera qui sera présent pour animer le débat. Alors, le thème du film, c'est un documentaire aussi. C'est le thème de l'amiante et des pesticides. Voilà. Alors, on va parler de Josette Rouder et Jean-Marie Birbès, qui étaient ouvriers en contact avec l'amiante. De Paul François, agriculteur, qui a été intoxiqué par un pesticide de Monsanto, le Lasso. D'Henri Pezera, chercheur au CNRS, qui a marqué leur vie en les aidant à se battre pour que ces crimes industriels ne restent pas impunis. La justice est-elle prononcée pour les responsables du grand mensonge de l'amiante ? Que fera-t-elle pour ceux de la catastrophe annoncée des pesticides ? À ces deux questions, venez en débattre avec nous. Jeudi 29 mars à partir de 18h15 au Ciné-Étoile de Digne-les-Bains. En présence, donc, je vous l'ai dit, de Pierre Pezera, qui est le fils d'Henri Pezera, qui est en fait est le chercheur au CNRS et c'est l'acteur essentiel de l'interdiction de l'amiante. Ensuite, il y aura également une association de victimes de l'amiante qui est basée à Château-Arnoux, qui sera présente au film et au débat, ainsi que l'association ATTAC et peut-être la Confédération paysanne. Voilà, donc un débat riche et d'actualité et qui concerne aussi les droits humains. Voilà, parce que c'est vrai qu'Amnesty International est née pour la défense du prisonnier d'opinion, etc. Mais très rapidement, on a élargi notre mandat. Et puis, dans les années 2000, sous la pression notamment des membres d'Amnesty des pays du Sud, qui nous ont dit, mais dites, les droits économiques, c'est essentiel aussi, parce que si vous n'avez pas accès à l'eau potable, si vous n'avez pas de logement, si vous ne mangez pas à votre faim, ben, tous les autres droits aussi en découlent, parce que personne va vous écouter. Voilà, donc c'est vrai que en fait, l'ensemble des droits sont interdépendants et souvent priver quelqu'un d'un des droits, c'est le priver aussi de beaucoup d'autres. Donc c'est pour ça qu'on est devenu généraliste de l'ensemble des droits humains. Et donc ce jeudi, ce sont les droits économiques, sociaux et culturels qui seront à l'honneur. Voilà, notamment le droit à la santé, hein, le droit de travailler dans des conditions saines, sans risquer la mort par son travail. Donc venez nombreux, jeudi 29 mars, à partir de 18h15, au Ciné-Étoile de Digne-les-Bains. On se quitte maintenant. Ouais. Merci Huguette Folie pour votre intervention.
Merci.
On se quitte avec une chanson justement sur l'écologie. de Gilles Vigneault, Lucas Lécolo.
C'était un paysan qui respectait la terre, et comme il respectait aussi bien l'air et l'eau, les voisins de Lucas l'appelaient l'écolo. Louise et Lucas avaient un fils au secondaire. Lucas allait soigner ses moutons et ses vaches quand il voit arriver un bon matin de mai deux petits avocats bien mis, frais diplômés, portable attaché caisse et cravate et moustache. Attention, Lucas l'écolo, l'eau de ton ruisseau vaut toute une fortune. Attention, Lucas l'écolo, l'eau de ton ruisseau vaut plus que le gros lot. Tel dit le dam tam tam. C'est monsieur le baron de la déchetterie qui nous a délégués pour vous faire savoir qu'il est le grand seigneur de tous les dépotoirs, de Rouen à Gaspé, du Nord et de l'Estrie. Il connaît vos soucis, respecte vos travaux, passionné comme vous pour sauver la planète. En passant, votre terre et votre maisonnette sont bien entretenues. On sait ce que ça vaut. Attention, Lucas l'écolo, l'eau de ton ruisseau vaut toute une fortune. Attention, Lucas l'écolo, l'eau de ton ruisseau vaut plus que le gros lot. Donc, monsieur le baron vous offre pour vos terres 3 millions sans compter un condo, deux autos, ajoutant un chalet près d'un lac, un bateau. Il aimerait lundi vous voir chez son notaire. Notre Lucas à peine a retrouvé parole. Lundi, me faut semer 40 arpents de maïs, en discuter avec ma femme, avec mon fils. Ma femme est au marché, mon fils est à l'école. Attention, Lucas l'écolo, l'eau de ton ruisseau vaut toute une fortune. Attention, Lucas l'écolo, l'eau de ton ruisseau vaut plus que le gros lot. Tam. Le soir venu, Lucas met tout ça sur la table. Chacun voit tout à coup l'avenir en couleur. Louise est abasourdie et Francis est songeur. Lucas dit « Je m'en vais faire un tour à l'étable ». Chacun a l'impression de trahir tous ses rêves en voulant les tenir en main tous à la fois. Les vaches, les moutons, l'étang, la terre à bois, c'est dehors et dedans. Tout un passé qui crève. Attention, Lucas l'écolo, l'eau de ton ruisseau vaut toute une fortune. Attention, Lucas l'écolo, l'eau de ton ruisseau vaut plus que le gros lot. C'est dimanche et Francis va dîner chez sa blonde, dont le père agronome est au courant de tout. Méfiez-vous du baron, c'est un fameux filou qui par ses dépotoirs prétend sauver le monde. Du fond de l'Alaska jusqu'au fond du Mexique, il promet des millions et joue à l'écolo. Puis un jour on apprend qu'il a pollué l'eau partout et qu'il avait plein de déchets toxiques. Attention, Lucas l'écolo, tiddle-la-di-tiddle-la-di-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam- temps. Mais aujourd'hui, Lucas est toujours sur sa terre, et comme il a toujours respecté l'air et l'eau, ses voisins ont fondé un vrai club écolo et parlent désormais de causes humanitaires. D'ici peu, son Francis sera un agronome, et Louise dit souvent, les faits nous ont appris que savoir se tenir debout n'a pas de prix, et que la femme et l'eau sont l'avenir de l'homme. Attention, Lucas l'écolo, l'eau de ton ruisseau vaut toute une fortune. Attention, Lucas l'écolo, l'eau de ton ruisseau vaut plus que le gros lot. Tam tim tam, tigladidam, tigladidam, tam tam. Attention, Lucas l'écolo, tigladidam, tam tam.